La revue de presse internationale.
Avec Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Lucas.
Alors, tout d'abord la situation au Venezuela, où l'opposition organisait une consultation populaire symbolique pour dire non au projet de constituante du président Nicolas Maduro. Et plus de 7 millions de votants ont participé. C'est en tout cas ce qu'annonce l'opposition.
Et oui, un vote massif contre la manœuvre de Maduro. C'est le titre d'El País en une. Aujourd'hui, sous la photo d'une foule de Vénézuéliens patientant pour glisser leur bulletin dans l'urne à Caracas. Manœuvre puisque le président vénézuélien entend faire élire une assemblée constituante le 30 juillet pour modifier la constitution et contourner l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. C'est ce que rappelle le quotidien espagnol. Moi, je votais Chavez avant, mais je ne suis plus chaviste. Chavez est mort et celui qui est mort est mort. C'est l'un des nombreux participants à cette consultation qui parle ainsi à El País. Chavez, rappelons-le, c'est l'ancien président vénézuélien dont Maduro est l'héritier. Cette consultation a été endeuillée par la mort d'une femme de 61 ans. Elle ne changera pas le rapport de force, écrit El País, puisqu'elle n'est pas reconnue par le pouvoir, mais elle sera une victoire morale. Quel contraste, s'exclame le quotidien espagnol, avec la faible affluence dans les bureaux ouverts le même jour par le pouvoir de Maduro pour que les Vénézuéliens testent les fameuses machines électorales qui seront en place le 30 juillet. Et ce, malgré les efforts des médias audiovisuels d'État pour faire croire à une avalanche de participants. C'est un pari risqué que celui de l'opposition. Analysé avant la consultation, le site indépendant vénézuélien Pro Da Vinci, il estime que le Venezuela vient d'entrer dans une phase de confrontation politique plus dangereuse encore, dans un combat plus acharné et qui ne bénéficie de la médiation d'aucune institution valable, ajoutant « seul un acteur international de grande envergure diplomatique » pourrait désamorcer la situation.
Des temps troublés aussi en Turquie, Marie-Pierre.
Et oui, où va la Turquie, s'interroge Nilgün Ceraoğlu dans Cumhuriyet. Reprenant le titre d'un ouvrage de l'ancien chef de la mission diplomatique à Ankara, elle s'inquiète que lors de la fête de la démocratie, puisque c'est le nom qu'Erdogan donne désormais au 15 juillet, date du putsch avorté l'année dernière, elle s'inquiète donc, cette journaliste de Cumhuriyet, des propos du chef de l'État. Il a affirmé que les journalistes emprisonnés, ils sont plus de 150, c'est un record, ne sont pas de vrais journalistes. Ils avaient, répète-t-il, des liens avec des réseaux terroristes ou bien portaient des armes ou encore avaient dévalisé des banques. Où va la Turquie, se demande la journaliste. Eh bien, elle s'enferme dans l'isolement avant de s'inquiéter de la crise majeure qui se prépare avec l'Europe. Le quotidien Sözcü, réputé pour son franc-parler, fait lui le récit de ce 15 juillet 2016 en soulignant les zones d'ombre. Avant de conclure, à force d'emprisonner les sympathisants de Gulen, les vrais coupables se sont perdus de vue. Le Guardian de Londres s'inquiète lui devant les propos d'Erdogan qui entend poursuivre son offensive contre les médias, les dissidents, les laïcs et les députés de l'opposition en promettant d'arracher la tête des traîtres. Un discours combatif faisant appel à l'émotion truffée d'invocations religieuses, note le Guardian, qui s'inquiète du retour annoncé de la peine de mort si le Parlement turc l'approuve. D'autant que ces commémorations officielles ont inclus des versets du Coran sur la trahison, le martyr et la confrontation avec ses ennemis. Le Guardian estime que cette focalisation sur la religion pose un vrai défi aux laïcs pour qui les principes fondateurs même de la République sont sapés.
La presse israélienne revient quant à elle, Marie-Pierre, sur certains propos de Benjamin Netanyahou au cours de sa visite à Paris ces derniers jours.
Oui, notamment l'opposition d'Israël au cessez-le-feu dans le sud de la Syrie, sous l'égide des États-Unis et de la Russie. Haaretz assure que le premier ministre israélien l'a fermement expliqué à Emmanuel Macron. Un responsable israélien requérant l'anonymat dit au journal qu'Israël soupçonne en fait l'Iran de vouloir étendre sa présence en Syrie. Ce ne sont pas seulement des conseillers que Téhéran veut dépêcher, mais des forces militaires pour établir une base navale et une base aérienne en Syrie. Jusqu'à présent, note Haaretz, l'opposition d'Israël avait pris des canaux diplomatiques discrets. Elle s'exprime pour la première fois publiquement. Le Jérusalem Post abonde. Cette présence iranienne pourrait changer radicalement la donne dans la région. L'Iran en bonne place aussi dans la presse américaine, après la condamnation à 10 ans de prison d'un Américain accusé d'infiltration. Selon le site Mizan Online, l'agence iranienne du ministère de la Justice, cet espion américain qui a aussi la nationalité chinoise avait pour mission de collecter des informations secrètes sur l'Iran en vue d'un renversement en douceur du régime. Voilà, estime le Washington Post, qui va ranimer les tensions avec l'administration Trump, alors que ce lundi, la Maison-Blanche doit se prononcer sur la levée de sanctions contre l'Iran.
Une information beaucoup moins commentée par les médias iraniens que le décès samedi aux États-Unis de la mathématicienne Maryam Mirzakhani, qui était la première femme lauréate de la médaille Fields.
Oui, effet exceptionnel du cas, alors que les médias iraniens ne publient pas de photos de femmes iraniennes non voilées. Le visage sans voile de la mathématicienne s'est étalé à la une de plusieurs journaux ce week-end, notamment le quotidien conservateur Amshari, qui titre « Le génie de la mathématique a cédé devant la puissance de la mort ». Maryam Mirzakhani avait quitté l'Iran pour l'université américaine de Princeton. Le quotidien Shargazar Mansouri appelle lui à créer des occasions pour les autres Mariam du pays en demandant au président Rouhani de nommer des femmes dans son prochain gouvernement. Mais en conclusion, je voudrais plutôt attirer votre attention, Lucas, sur cet article du Washington Post citant des sources du renseignement américain. Le Post affirme que ce sont les Émirats Arabes Unis qui sont à l'origine du conflit entre le Qatar et ses voisins. Le 23 mai, de hauts responsables émiratis auraient élaboré un plan pour hacker des sites du gouvernement qatari et attribuer de fausses déclarations à l'émir Al-Thani, des propos dans lesquels il louait notamment le Hamas et qualifiait l'Iran de puissance islamique. C'est le 24 mai que ces sites ont été hackés, écrit le journal, juste après la rencontre de Donald Trump avec des responsables du Golfe Persique en Arabie Saoudite.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On vous retrouve demain évidemment autour de 7h24 pour la revue de presse internationale.